Vous écoutez, on lit pour vous.
Affaiblir la surveillance des pesticides met les Canadiens et leur environnement en danger. Un texte de Mathilde Louise Tissier, Laura Melissa Guzman, James Luthwaite et René Chamo-Hamadlou. Publié le 10 décembre 2025 dans Le Devoir. Il y a plus de 5000 pesticides enregistrés au Canada. Ces produits sont utilisés pour protéger les cultures des ravageurs et pour maximiser les rendements. Leur surveillance et leur encadrement sont essentiels, non seulement pour la faune et les écosystèmes, mais également pour la santé des Canadiens, particulièrement des agriculteurs qui font régulièrement face à une exposition directe. Actuellement, le gouvernement fédéral réévalue périodiquement tous les pesticides sur le marché afin de confirmer leur innocuité. Cependant, l'annexe 5 du budget 2025 propose de supprimer les réévaluations cycliques des pesticides et faciliter ainsi une surveillance moderne fondée sur le risque. La réévaluation cyclique est la pierre angulaire du maintien de la sécurité des pesticides. Elle permet l'intégration périodique de nouvelles connaissances après l'approbation d'un produit. En tant que scientifique travaillant sur les effets des pesticides sur les pollinisateurs ou sur les troubles comportementaux et sanitaires liés à l'utilisation des pesticides, nous sommes préoccupés par la suppression de ce pilier de la loi sur les produits antiparasitaires. Sans plus de détails sur ce qui le remplacera, nous craignons un affaiblissement des mesures de protection de la santé humaine et de l'environnement. Il est difficile de quantifier avec précision le fardeau sanitaire des pesticides au Canada. Les évaluations rigoureuses de l'Organisation mondiale de la santé ou de l'Autorité européenne de sécurité des aliments établissent de manière croissante de nombreux liens entre exposition chronique aux pesticides et problèmes de santé. Cela inclut des troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson, plusieurs cancers, l'infertilité et les malformations congénitales. À l'heure où la communauté scientifique et les institutions de santé reconnaissent les liens étroits entre la santé humaine, animale et environnementale, le Canada ne devrait pas affaiblir l'un des rares systèmes conçus pour détecter les risques émergents. Les conséquences à long terme sur la santé ne sont généralement pas détectées par les recherches à court terme que les fabricants sont tenus de mener avant l'autorisation de mise sur le marché d'un pesticide. La plupart des effets ne deviennent apparents qu'après l'utilisation en conditions réelles du produit. L'exemple le plus tristement célèbre est celui du DDT, l'un des composés les plus dévastateurs jamais approuvés. Il a fallu presque 30 ans avant qu'il ne soit interdit et plus d'une décennie supplémentaire avant l'arrêt de son utilisation. Le DDT a été introduit à une époque où les systèmes de réévaluation et de protection, tels qu'on les connaît aujourd'hui, n'existaient pas. Un exemple plus récent est celui des néonicotinoïdes, un groupe de pesticides introduit dans les années 1990 pour protéger les rendements des insectes ravageurs de culture, mais qui a également eu des effets dévastateurs sur les abeilles et autres pollinisateurs. La majorité des recherches réalisées après la mise sur le marché d'un produit sont indépendantes de l'industrie des pesticides. Elles sont souvent menées par des universités, des scientifiques gouvernementaux et des organismes publics. Ces recherches indépendantes évaluent les risques liés aux pesticides dans des conditions réelles, avec une exposition environnementale réaliste et en utilisant les dernières technologies. Cela prend du temps. Une fois dans l'environnement, les pesticides se dégradent, se transforment ou persistent d'une manière qui peut être difficile à prévoir au moment de leur homologation. Les pesticides peuvent générer de nouveaux sous-produits lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil, à l'eau ou à des micro-organismes. Ils peuvent s'accumuler dans les plantes ou se déplacer sur de longues distances dans les sols et les cours d'eau. C'est pourquoi une réévaluation périodique de leur dangerosité, fondée sur des preuves, est nécessaire. Elle garantit l'actualisation des dispositifs de protection en réponse à l'identification de nouveaux dangers. La réévaluation cyclique des pesticides est effectuée tous les 15 ans par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ARLA, de Santé Canada. Avec des milliers de produits homologués et les ressources limitées de l'ARLA, il est inévitable que le système accumule du retard. Et on peut comprendre que des adaptations soient proposées. Mais les enjeux sont trop élevés pour que des modifications législatives majeures soient brièvement inscrites dans une annexe budgétaire sans explication claire sur la manière avec laquelle les risques seront évalués pour tous les pesticides. Quelles données seront requises ou qu'est-ce qui déclenchera une réévaluation? Les Canadiens méritent une transparence totale sur la manière avec laquelle leur santé et leur environnement seront protégés. Les signataires sont respectivement chercheuses au CNRS et professeurs associés à l'UQAM, professeurs agrégés au département d'entomologie de la Cornell University, candidate Lieber Arrow Fellow au département de biologie de la Carleton University et département d'entomologie de la Cornell University. Stagiaire postdoctoral NSERC à la School of Biological Sciences de la Washington State University. C'était Affaiblir la surveillance des pesticides met les Canadiens et leur environnement en danger. Un texte de Mathilde Louise Tissier, Laura Melissa Guzman, James Luthwaite et René Chamoha Madlou, publié le 10 décembre 2025 dans Le Devoir.
comment Jakarta a-t-elle détrôné Tokyo comme la ville la plus peuplée du monde? Un texte de John Yoon du New York Times, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir. Jakarta, capitale vibrante et surpeuplée de l'Indonésie, a détrôné Tokyo comme ville la plus peuplée du monde, selon les Nations Unies, grâce à une nouvelle manière de comptabiliser les populations urbaines. Jakarta compte désormais 42 millions d'habitants, soit à peu près la population du Canada, selon le rapport World Urbanization Prospects 2025 des Nations Unies, publié le 18 novembre 2025. Tokyo, avec 33 millions d'habitants, arrive maintenant au troisième rang. Dhaka, la capitale du Bangladesh, se hisse au deuxième rang avec 37 millions. Il s'agit d'un bouleversement radical du palmarès par rapport au dernier rapport publié en 2018 qui plaçait Jakarta au 33e rang avec 11 millions d'habitants et Tokyo au premier avec 37 millions. Une nouvelle méthodologie. Cet écart immense est attribuable en grande partie à la nouvelle méthodologie du rapport. Auparavant, les estimations se fondaient principalement sur des statistiques officielles nationales qui pouvaient utiliser des critères très différents. Cette fois, le rapport explique qu'il utilise une approche uniforme dans les pays pour classer les villes, les villages et les zones rurales. Pour Jakarta, qui s'étend le long de la côte nord-ouest de l'île de Java, la nouvelle méthodologie a intégré environ 30 millions de personnes de plus que les critères précédents auraient permis de compter, selon le rapport. Les statistiques nationales officielles pour la région métropolitaine excluaient des communautés densément peuplées, pourtant connectées au centre-ville, précise-t-il. En appliquant ces nouveaux critères, les chercheurs constatent que Tokyo était la ville la plus peuplée du monde jusqu'en 2010 environ, moment où Jakarta l'a dépassée. Tokyo, comme le reste du Japon, a connu une baisse de population ces dernières années. Inégalité. La croissance spectaculaire de Jakarta au cours des dernières décennies a été nourrie par une migration massive ainsi que par des projets de développement et d'infrastructures. Cette croissance a engendré des zones d'habitat informel tentaculaires, autant dans le centre que dans les communautés environnantes, où des populations pauvres et ouvrières ont construit des villages et des bidonvilles denses, souvent près de gratte-ciel, ce qui met en lumière les profondes inégalités économiques de Jakarta. Des millions de personnes vivant dans ces implantations informelles, appelées kampung en indonésien, manquent souvent d'eau potable, d'électricité et de systèmes d'évacuation des déchets et ne sont habituellement pas comptabilisées dans les statistiques officielles de la ville, explique Walid Al-Zamil, professeur d'urbanisme à l'université King Saud, en Arabie Saoudite, auteur des travaux sur ces quartiers. La croissance de Jakarta a pollué la ville, engorgé ses routes et surchargé ses infrastructures, en particulier ses canaux et son réseau d'égouts, alors que de nombreux quartiers s'enfoncent par le poids des bâtiments et se trouvent déjà sous le niveau de la mer. En 2022, le pays a même commencé à construire une nouvelle ville, Nusantara, censée remplacer éventuellement Jakarta comme capitale. Planification urbaine. Le rapport de l'ONU affirme que ses conclusions aideront les décideurs, les planificateurs et les chercheurs à améliorer le logement, les transports, l'assainissement, les systèmes de santé et d'autres services publics partout dans le monde, en particulier dans les villes en croissance. Le décompte de l'ONU pour Jakarta inclut les populations de sa banlieue comme faisant partie de la ville, explique Gonggom Tua Sitangang, directeur Asie du Sud-Est pour l'Institute for Transportation and Development Policy, une organisation basée à New York. Cela est significatif pour les politiques de transport collectif, dit-il, parce que les transports se moquent des frontières administratives. Sitangang, qui réside à Jakarta, ajoute que le transport en commun est pratiquement inexistant dans les villes satellites, même si la vaste majorité des habitants y font la navette vers le centre. Un palmarès en évolution. Le nouveau système a aussi modifié le classement d'autres villes. Dhaka est passée du 9e au 2e rang. Elle devrait devenir la plus grande ville du monde d'ici 2050. indique le rapport. Les chercheurs constatent également que 9 des 10 villes les plus peuplées, Jakarta, Dhaka, Tokyo, New Delhi, Shanghai, Guangzhou en Chine, Le Caire, Manille aux Philippines, Kolkata en Inde et Séoul en Corée du Sud, se trouvent en Asie. 2 d'entre elles, Séoul et Tokyo, devraient connaître des baisses de population d'ici 2050, selon le rapport. Les villes retirées du top 10 sont São Paulo, au Brésil, Mexico, Mumbai, en Inde, Pékin et Osaka, au Japon. Un monde plus urbain. La nouvelle méthodologie a d'autres implications. Les chercheurs constatent que l'urbanisation est plus répandue que ne l'indiquent les statistiques nationales. Environ 45 % des 8,2 milliards d'habitants de la planète vivent aujourd'hui en ville, soit le double de la proportion urbaine de 1950. La majorité de la population urbaine mondiale n'habite toutefois pas dans les plus grandes métropoles, mais dans des villes petites et moyennes où la croissance est également la plus rapide, souligne le rapport. Ces villes, notre principale préoccupation, vise les villes qui sont en croissance, déclare Björg Sandkjær, secrétaire général adjointe chargée de la coordination des politiques au département des affaires économiques et sociales de l'ONU, lors d'un point de presse. Il peut être difficile pour les urbanistes de réussir à accueillir toute la population à mesure que la ville grandit, avec des services, des infrastructures, l'assainissement, l'éducation. C'était comment Jakarta a-t-elle détrôné Tokyo comme ville la plus peuplée du monde? Un texte de John Yoon du New York Times, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir.
Lisiane Gagnon, femme indépendante. Un texte de Étienne Paré, paru le 11 novembre 2025 dans La Presse. Journaliste à La Presse pendant près de 60 ans, Lisiane Gagnon aura fait office de pionnière tout au long de sa carrière. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec a salué son parcours le week-end dernier lors de son congrès annuel en lui décernant le prix Judith Jasmin Hommage. Elle a été l'une des premières femmes promues correspondante parlementaire. L'une des premières aussi, ensuite au Québec, a signé une chronique politique dans un grand quotidien. Oui, Lisiane Gagnon est consciente d'avoir défoncé quelques plafonds de verre au fil de sa vie, mais elle refuse d'en faire un accomplissement. Le Boys Club, qui était à l'époque le monde des médias, elle l'a connu, mais elle ne l'a pas subi, tient-elle à préciser. Partout où elle est passée, la chroniqueur, car elle préfère ce mot à celui de chroniqueuse, dit n'avoir jamais senti d'hostilité particulière à son égard, de la part de ses collègues masculins. Je ne suis pas de celles qui voient du sexisme éhonté partout. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais vu des comportements ou des paroles inacceptables. Mais moi, en tout cas, je n'en ai pas été victime, assure Lisiane Gagnon, qui se décrit volontiers comme une féministe. Mais une féministe modérée, prend-elle soin d'ajouter aussitôt. Je pense que les femmes ont intérêt à ne pas toujours se présenter comme des victimes, tranche celle qui n'a rien perdu de sa verve. Que ce soit à La Presse ou au Globe and Mail, où elle a aussi collaboré pendant de nombreuses années, Lisiane Gagnon n'a jamais eu peur de déplaire. Elle s'est souvent inscrite en faux contre le consensus, se gardant bien de simplement suivre les préceptes de quelque chapelle idéologique que ce soit. Au début des années 2000, elle a été l'une des premières dans l'espace public à défendre le mariage gay, mais elle a aussi été, quelques années plus tard, l'une des seules au Québec à soulever des préoccupations éthiques autour de la gestation pour autrui. Critique du voile dès les années 1990, elle a néanmoins pourfendu le projet de charte des valeurs du gouvernement Marois. Inévitablement, ses prises de position lui auront valu plusieurs détracteurs avec les années. Pour faire ce métier-là, il ne faut pas avoir un égo fragile, insiste Lisiane Gagnon en guise de conseil pour tous les jeunes journalistes qui ont l'ambition d'écrire un jour dans les pages d'opinion. Un deuil difficile. Ça n'en demeure pas moins le plus beau métier du monde, à ses yeux. Même après sa retraite, elle a continué à écrire occasionnellement dans La Presse. Son dernier texte remonte à avril 2020. Dès qu'elle évoque son départ, même si 5 ans se sont écoulés depuis, son regard d'un bleu perçant, sans but. La blessure est visiblement toujours vive. Contrairement à d'autres grandes figures de la presse, Lisanne Gagnon n'a jamais publié une dernière chronique pour faire ses au revoir au lecteur. Elle n'en avait pas la force. J'ai été là tellement longtemps. Disons que je n'étais pas dans l'esprit de dire quelque chose, confie-t-elle en essuyant ses larmes. Un livre à venir. À 84 ans, Lisanne Gagnon n'a pas cessé d'écrire. Elle planche sur un livre politique dans lequel elle promet de partager quelques souvenirs personnels tirés de cette période foisonnante où elle a exercé le journalisme. Reporter à l'éducation, à l'époque de la déconfessionnalisation des écoles, courriériste parlementaire lors des épineux débats autour du fait français, Lisanne Gagnon aura été aux premières loges des grands bouleversements qui ont jalonné le Québec de la Révolution tranquille. Proche du Rassemblement pour l'indépendance nationale, RIN, dans sa vingtaine, cette fille de bonne famille, qui a grandi à la frontière de Côte-des-Neiges et d'Outremont, aura fréquenté toute l'intelligentsia souverainiste des années 1960, de Pierre Bourgault à René Lévesque. Elle finira par changer son fusil d'épaule. La plupart des gens évoluent entre 25 et 40 ans, vous savez. Pour ma part, il n'y a jamais eu de déclic. Ça s'est fait graduellement. Quand on est journaliste, on se doit d'écouter les deux côtés de la médaille. C'est pour ça que la plupart des journalistes sont des gens généralement modérés, évoque cette fédéraliste convaincue qui a plusieurs fois dans ses chroniques reproché au clan souverainiste son manque de clarté. Elle précise par contre n'avoir jamais remis en question la bonne foi des partisans de l'indépendance. La souveraineté du Québec est une option aussi réaliste et honorable que le statu quo, glisse-t-elle en entrevue. Enfin, peut-être pas réaliste, mais honorable certainement, corrige-t-elle ensuite, sourire en coin. Jamais d'interférence. Dans son ancienne famille politique, plusieurs ne lui pardonneront jamais son changement de cap. On l'accusera d'être à la solde des puissants, d'être le porte-voix de Power Corporation et de la famille Desmarais, à l'époque propriétaire de la presse. Ça m'a beaucoup blessée. Beaucoup, 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 avoue-t-elle. Lisanne Gagnon tient à le redire une fois pour toutes, en 60 ans de métier, jamais elle n'a eu de pression de qui que ce soit. Tout ce qu'elle a écrit dans ses chroniques, c'est parce qu'elle le pensait, sincèrement, au moment où elles ont été publiées. Les Desmarais étaient des libéraux, au sens philosophique du terme. Ils croyaient réellement à la liberté d'expression. Ils se gardaient bien d'intervenir. J'ai fait des chroniques très dures envers Jean Chrétien, très dures envers des gens qui étaient probablement proches d'eux. On ne me l'a jamais reproché. On parle beaucoup de désinformation en ce moment. Présenter les chroniqueurs comme des esclaves des propriétaires des médias pour lesquels ils travaillent, c'est un élément de désinformation, s'inquiète cette femme de caractère, qui n'a vraisemblablement pas le tempérament pour qu'on puisse lui dire quoi faire. C'était Lisanne Gagnon, femme indépendante. Un texte de Étienne Paré, paru le 11 novembre 2025 dans la presse.
Déclaration historique pour les droits des femmes inuites. Un texte de Nelly Guidici, publié le 4 décembre 2025 dans l'Aurore boréale. Du 27 au 29 octobre dernier, le tout premier sommet des femmes inuites a eu lieu à Sisimiut, au Groenland. Organisé par le Conseil circumpolaire inuit, il a permis de réunir 42 femmes du Canada, de l'Alaska et du Groenland. Quatre participantes du Chukotka, C-H-U-K-O-T-K-A, en Russie, ont également pu se joindre à certaines sessions virtuelles durant le sommet. Ces trois jours de rencontres et de réseautage ont permis aux participantes de partager leurs connaissances, mais aussi de renforcer leurs liens. Ce sommet se concrétise à un moment crucial, d'après Sarah Olzig, présidente du Conseil. Citation : Nous avons beaucoup à partager et à apprendre les unes des autres. Les droits individuels et collectifs des femmes et des filles inuites sont gravement affectés par de nombreuses politiques, programmes et événements actuels et historiques. Nous devons nous unir pour promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles inuites, a déclaré Sarah Olzig, fin de citation. une déclaration inédite. De plus, le sommet, qui a été riche de moments précieux et stimulants, selon la présidente, s'est clôturé par la publication de la Déclaration des femmes inuites. Présentée comme un plaidoyer fort pour renforcer la voix, la sagesse et la place des femmes inuites en Arctique, la Déclaration est aussi un document historique. Il marque un tournant dans l'histoire et reflète les priorités et les aspirations collectives des femmes et des filles inuites. Cette déclaration de 12 pages présente des recommandations concrètes pour faire progresser la protection, la promotion et la mise en œuvre des droits des femmes inuites au niveau national, régional et international. Le document affirme que les femmes inuites, comme les femmes autochtones, subissent des violences et de la discrimination fondées sur le genre et leurs identités. Les conséquences de, citation, ces violations touche non seulement les femmes, les filles ou les personnes de genre divers, mais aussi l'ensemble de nos peuples à travers les territoires inuits et au-delà. Fin de citation, peut-on lire dans la déclaration. En outre, ces formes de violence ne sont pas accidentelles et résultent, citation, de politiques coloniales, d'idéologies de supériorité raciale et de l'exclusion systémique. Même si ces idéologies ont été largement dénoncées, leur héritage persiste dans les structures juridiques de gouvernance, mais aussi dans les services publics. Fin de citation. Les 42 recommandations destinées au gouvernement du Canada, des États-Unis, du Danemark et de la Russie visent à lutter contre la violence latérale, tout en reconnaissant le rôle essentiel des femmes inuites dans la défense de leur culture et de leur communauté. Publiée en anglais, cette déclaration est en cours de traduction en Inuktitut. Article de l'Arctique est une collaboration de 5 médias francophones des 3 territoires canadiens, les journaux L'Aquilon, l'Aurore boréale et le Nunavoie, ainsi que les radios CFRT et Radio Taïga. C'était une déclaration historique pour les droits des femmes inuites, un texte de Nelly Guidici, publié le 4 décembre 2025 dans l'Aurore boréale.